Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce 17 juin 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc encore une fois cette semaine, on a un invité, mais juste avant de le présenter, est-ce que tu pourrais nous faire le point sur qu'est-ce que tu suis en ce moment?
On avait un début de juin un petit peu difficile la semaine passée. Ben, ça s'est pas mal résorbé là, du côté du TSX. On a fait des nouveaux sommets hier. On est en hausse donc de à peu près 2,7 cette semaine. Le Dow Jones aux États-Unis a fait un nouveau sommet, mais pas encore le S&P 500 et le Nasdaq, qui sont les deux indices qu'on suit le plus souvent, surtout le S&P 500, là, qui est l'indice le mieux diversifié. Mais quand même une hausse de 1,7 cette semaine. Et du côté du marché, des marchés internationaux, l'indice Europe, Australie, Asie, en hausse de 3,3. Donc aussi un nouveau sommet qui a été atteint hier. Pourquoi? Bon, le conflit en Iran, semble-t-il, ça signe vendredi. Là, on verra, j'ai hâte de voir la signature sur le bout de papier. Mais pour l'instant, tout semble indiquer là, que cette guerre-là, qui semblait pas vouloir terminer, on arrive vers la fin. Les taux d'intérêt ont baissé sur l'annonce, mais surtout le pétrole a baissé beaucoup. La semaine passée, on était à 92 le baril, on est à 76 maintenant, donc une baisse assez significative. Ça va probablement aider là, l'inflation qui semblait se pointer le nez un petit peu plus là, depuis quelques temps. Aujourd'hui, ben, parlant d'inflation, on va avoir la première réunion du nouveau gouverneur de la Réserve fédérale américaine, M. Walsh. On verra, il a été nommé là pour baisser les taux. Gros point d'interrogation, on verra qu'est-ce qu'il va faire parce que ça ne s'est pas indiqué que c'est ce qui va arriver. Plusieurs titres ont fait des nouveaux sommets, des titres là, largement détenus par nos clients. J'ai mentionné les indices, mais plus spécifiquement là, des titres comme PowerCorp, BMO, Royal, TD, hein, donc nos titres financiers au Canada qui performent extrêmement bien. Le FNB aussi, basé sur l'indice Europe, Australie, Asie, fait des nouveaux sommets. Donc en général, là, les performances sont très bonnes cette semaine et depuis le début de l'année aussi. Là, on parle de rendement 11,6 du côté du TSX. Plus de 13% du côté du Nasdaq, une douzaine de pourcents dans les marchés internationaux. Donc, en général, là, si on est bien diversifié, ça va très bien.
Merci beaucoup, Martin. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir de nouveau Hugo L'Italien, qui est analyste financier des Jardins Gestion de patrimoine. Hugo écrit une publication mensuelle qui s'appelle Sous le macroscope, qui fait état des grandes tendances macroéconomiques qu'on pourrait partager avec vous, mais aujourd'hui, on va pas mal faire le sommaire de tout ça. Donc, bonjour Hugo et merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Bonjour, merci d'en savoir, toujours un plaisir.
Hugo, je veux commencer avec le thème principal de ton dernier article. L'intelligence artificielle reprend le relais. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ça veut dire?
En fait, on est habitué dans les dernières années à avoir la thématique d'intelligence artificielle technologique prendre le relais, en fait prendre l'avance sur tout ce qui est côté rendement et même une portion de l'économie. Et là, je vous dirais qu'en 2025, on a eu un petit chamboulement. On a vu commencer à avoir d'autres segments de marché surperformer les fameux marchés américains. C'était une première en plusieurs années. Donc ça a été un changement de dynamique assez intéressant pour les investisseurs. Et je vous disais que le début 2026, on avait le prolongement de cette année-là. Et donc, c'était somme toute une année très forte jusqu'à temps que le conflit entre les États-Unis et l'Iran survienne. Et ce que ça a fait en sorte, c'est que là, on avait des investisseurs vouloir aller se réfugier vers ce qu'ils connaissaient plus, ce qu'ils percevaient comme une valeur un peu plus sûre, étant donné ici l'intelligence artificielle. Et donc, je vous dirais là, que depuis qu'on a touché un creux dans les marchés le 30 mars dernier, le rebond qu'on a vécu, vraiment, à toute vapeur, c'est la technologie, l'intelligence artificielle qui mène le bal. Et donc, ça fait en sorte qu'on a des marchés qui sont plus exposés à ça. Donc, les États-Unis, marchés émergents qui ont une composante technologique plus forte, eh bien, c'est eux qu'on les voit en avant de la parade en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on reprend le relais. On pensait qu'on avait une rotation tant d'un point de vue géographique et sectoriel qui s'entamait depuis l'année 2025, mais il semblerait que la thématique là, de la technologie forte qui en a encore à donner.
Puis, tu mentionnes dans le document la croissance, puis tu sais, les rendements sont très concentrés. Est-ce que c'est un risque pour l'investisseur? Puis on avait discuté, est-ce qu'on est en train de baigner dans la complaisance?
Oui, c'est une excellente question. C'est une question qu'on se pose à tous les jours, surtout quand on voit le price action en ce moment dans le marché. Mais tu sais, je dirais que D'un côté, on est toujours sur une base relative quand on regarde l'évolution des marchés internationaux. Donc, on regarde bon, comment que le S&P 500 va se comparer au TSX par rapport aux autres indices mondiaux. Puis, on voit en ce moment que c'est les indices à plus grande propension technologique qui, comme je le mentionnais, surperforment. Donc, c'est des indices qui ont tendance à être plus concentrés. Donc, c'est quelques joueurs qui vont expliquer la majeure partie de ces rendements-là. Par exemple, depuis le début de l'année, 60 % du rendement du S&P 500, bien, c'est quoi? C'est la thématique semi-conducteur. Donc, c'est vraiment la nouvelle saveur, nouvelle entre guillemets. Dans les dernières années, c'était beaucoup les Magnifique 7. Là, on parle plus des Magnifique 2. On a Nvidia et Alphabet là, qui surperforment l'ensemble du reste. Mais sinon, c'est vraiment tous les titres qui travaillent à développer l'architecture d'intelligence artificielle qui font très bien. Fait que c'est pour ça qu'on voit une performance un peu plus segmentée, prononcée sur certains titres. La seule chose, c'est que quand on le regarde en absolu, maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est que oui, il y a une concentration dans certains indices, mais quand je regarde l'ensemble des différents types de stratégie d'investissement, que ce soit une stratégie de type croissance, un peu plus valeur, ceux qui vont investir dans des grandes capitalisations, dans les petites capitalisations, tout est dans le vert. Fait que dans l'absolu, tout est en train d'avancer. C'est juste que les indices qui sont plus concentrés tech vont avancer davantage. Pour revenir à ta question, est-ce que c'est un risque? C'est sûr que quand on a des gros rendements qui reposent sur un petit nombre de joueurs, eh bien, si jamais on voit un assouplissement dans les attentes sur ce secteur-là, bien, ça pourrait faire en sorte que bon, bien, le marché a tellement avancé sur cette thématique-là, bien, pourrait avoir reculé sous cette même thématique-là. Donc, c'est ce qu'on surveille. Donc, ça milite toujours dans ce cas-ci, bien évidemment, pour une bonne diversification de portefeuille.
Absolument. Un autre point que j'ai trouvé intéressant dans ton article, c'était la profitabilité. Tu dis dans l'article, les marges et les rendements sont à un niveau presque historique. Comment doit-on interpréter ça? Et est-ce que tu vois à travers tout ça des gains de productivité liés à l'IA?
Bien, pour ta première question, comment qu'on voit ça? C'est hyper positif. Quand on voit que les fondamentaux, donc la croissance des ventes, la croissance des marges, la croissance des profits est au rendez-vous, à ce moment-ci, où est-ce qu'on se trouve dans le cycle boursier, ça fait déjà, tu sais, on se rappellera là, que alors, on avait eu une année difficile en 2022, on avait touché un creux en octobre 2022, et depuis, les marchés ont carburé à la hausse depuis. Est-ce qu'on a eu des petits blips? Oui. Mais somme toute, ça a été une tendance très forte. Donc là, on est rendu dans la quatrième année de ce qu'on appelle ce bull market-là. Fait que c'est normal de voir à ce point-ci la profitabilité contribuer davantage à l'avancée des marchés. Donc, c'est super bon. Encore là, on a un petit biais technologique de ce côté dans la cadence des bénéfices. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, la majeure partie des secteurs contribue, elle aussi, positivement, dans une moins grande ampleur que le secteur tech, mais somme toute positivement. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas vu ça. Fait que c'est bon. Ça veut dire que notre allié boursier, il a des jambes, il consolide sa fondation. Fait que ça, c'est ta première question. Deuxième question sur, on parle beaucoup d'IA et profitabilité au rendez-vous, est-ce qu'on voit des gains de productivité? Il faut faire la distinction entre la monétisation que les entreprises financières font. Fait que ça, on le voit. Ça, c'est concret. On voit les entreprises technologiques développer. Oui, on investit massivement, mais on voit un retour sur investissement positif, tangible. Ça, c'est bon. Il y en a qui sont capables de le démontrer davantage, puis c'est pour ça qu'en ce moment, on voit ces titres-là avancer plus que d'autres. Dans les dernières années, tout avançait en même temps. Là, on voit que les investisseurs sont plus sélectifs. On va se positionner derrière ceux qui sont en mesure de plus monétiser. Côté productivité maintenant. Fait que là, ça fait plus référence du côté économique. Est-ce qu'on voit dans les données économiques que l'intelligence artificielle amène un plus? Je te dirais que c'est difficile encore aujourd'hui de dire que oui. D'un point de vue anecdotique, oui, on voit des entreprises en parler, mais sinon, dans la donnée pure et dure, ça risque de prendre encore un peu de temps. C'est quand on regarde les années 80 avec le lancement des ordinateurs, on avait des ordinateurs partout. C'était d'ailleurs l'économiste Solow qui disait, il y a des ordinateurs partout, on les voit partout, mais on ne le voit pas dans les données économiques. Ça a pris 10 ans avant de le voir. Cette fois-ci, est-ce que ça va être plus rapide? Possiblement. Mais vraiment, aujourd'hui, de dire qu'il y a un gain de productivité économique aux États-Unis ou au Canada à cause de la technologie, c'est difficile. On ne le voit pas encore. Mais est-ce qu'on s'attend à ce que ça l'aide? Oui, tout à fait. Fait que là, on va attendre le tout. Mais financièrement, c'est tangible. Fait que ça, c'est bon.
Puis en parallèle, tu identifies quand même certains risques importants. C'est quoi, selon toi, les principaux éléments que les investisseurs devraient surveiller présentement?
Donc, certainement, quand on a des marchés qui avancent, bien, qui rebondissent avec l'ampleur, la rapidité qu'on vient de voir, il y a des risques qui viennent avec. On parlait de concentration au début de l'union, bien, c'est sûr que ça demeure un des risques. Pourquoi? Bien, c'est juste le secteur des semi-conducteurs qui représente aujourd'hui 16 % du S&P 500. Puis là, quelques années, on était sous les 10 %. La profitabilité, le secteur semi-conducteur représente une plus grande partie, on parle 16 % des profits anticipés, comparativement à 4 % il y a 10 ans. Donc, ça fait en sorte que oui, comme je disais tantôt, c'est une thématique qui va bien. Ça fait en sorte que c'est un marché plus concentré. Donc, si cette thématique-là fléchit un peu, ça pourrait, même si le reste des secteurs vont bien, on pourrait voir l'indice global baisser. Fait que, somme toute, surtout dans un contexte là, on est risk on l'appelle, donc on a un sentiment qui est positif. Si jamais on tombe en mode risk off, donc on a un autre choc de marché, c'est souvent ces marchés-là qui ont très bien fait, qui peuvent se normaliser un petit peu, même si les fondamentaux sont solides. Fait que ça, c'est ce qu'on regarde. D'un autre côté, les profits, c'est un moteur. Donc, habituellement, les profits à long terme, on regarde où est-ce qu'ils s'en vont, puis le marché va suivre la direction. Mais les attentes de profit en ce moment, quoi qu'ils sont très forts, on se pose la question, est-ce qu'on est en train d'extrapoler cette robustesse-là dans le futur? Est-ce qu'on ne tombe pas un petit peu dans la complaisance de ce côté-là? C'est une question qui est valable. Le secteur technologique a tendance à toujours surperformer les attentes, mais il faut faire attention de ne pas toujours extrapoler parce qu'en ce moment, on est dans un momentum de révision de bénéfices à la hausse qui est, comme tu dis, historique. Fait que si tu prends ça et tu essaies de l'extrapoler sur 5-10 ans, mais à un certain point, ce rythme-là peut casser. Donc, il y a des indicateurs qui nous soulignent que comme quoi, bon, ben, la demande du côté de l'intelligence artificielle, du côté technologique, c'est toujours pas. Ça ne prend pas un repli imminent, mais ça veut quand même dire que aujourd'hui, les révisions qu'on voit, c'est beaucoup dans les secteurs semi-conducteurs, du côté de l'énergie, c'est des secteurs où est-ce que il y a des goulots d'étranglement récents. Donc, on a parlé de l'aspect. Dans les marchés beaucoup là, les puces mémoire, donc avec les gros joueurs comme Samsung, SK Hynix, etc., il y en manque partout. C'est le goulot d'étranglement de la chaîne d'intelligence artificielle est là en ce moment. Fait que c'est sûr que les prix augmentent beaucoup. Mais ça, est-ce que c'est cyclique? Est-ce que dans 2 ans, ça va s'assouplir? Habituellement, c'est des secteurs où est-ce qu'il y a une cyclicité quand même assez rapprochée. Là, est-ce qu'on est sur un développement structurel que cette cyclicité-là va être sur 5-7 ans? La question demeure ouverte. Côté de l'énergie, on a révisé à la hausse avec le pétrole, mais Martin, tu disais d'entrée de jeu, on a le pétrole qui est de retour à 76. Fait que ça, même si les entreprises vont en avoir bénéficié, ça, c'est un autre goulot d'étranglement que là, on est en train de défaire un peu plus rapidement. Fait que ça, c'est les questions ouvertes qu'on a du côté des profits. Donc oui, c'est fort. Donc, on va essayer de voir la tendance si elle se maintient. Peut-être un des derniers ben, en fait, deux derniers rapides, là, le cycle d'investissement du côté de l'intelligence artificielle demeure assez robuste. Ça, c'est indéniable. On dépense des centaines de milliards parce qu'on est capable de voir un retour sur investissement tangible. Le jour où on voit un retour sur investissement moins fort de la part des entreprises, c'est là ça va sonner un petit son de cloche, mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Fait que c'est un des risques. Le dernier, peut-être le plus important à court terme, c'est les taux d'intérêt. Donc, on a des marchés qui sont quand même va bien valorisés d'un point de vue historique. Une hausse des taux, comme on a vu récemment avec la condition du conflit entre les États-Unis et l'Iran, ferait en sorte de venir assouplir un peu les cours boursiers. Là, on a le baril de pétrole qui redescend, fait que les taux ont suivi. Fait que c'est un risque qu'on semble mitiger un petit peu à court terme, mais le risque d'inflation est toujours là. On parle toujours de la dette américaine ou de la dette internationale qui est en train de grossir. Ça peut mettre une pression à la hausse sur les taux. Donc, c'est un risque qui est en train de fond, qui est toujours très tangible et qui pourrait venir affecter les marchés si jamais on atteint un certain seuil. Mais là, avec la situation récente, on voit que ce risque s'est un petit peu assoupli, mais qui demeure quand même présent.
Puis, tu as parlé du cycle d'investissement en IA. Est-ce qu'on est encore au début du cycle de l'IA ou est-ce qu'on commence déjà à être avancé selon toi?
Ouais, c'est une question qui est très intéressante. Je te dirais qu'on est à un cycle plus mature, un peu comme le cycle boursier tantôt, là. Donc, on est dans un cycle d'investissement plus mature. On voit que les entreprises dépensent encore beaucoup, comme cette année, ça va être une année record. Là, on parle de plus de 800 milliards, si je ne me trompe pas, sur quelques entreprises. En absolu, le montant continue d'augmenter, mais la croissance année sur année diminue. Fait que ça, on voit qu'il y a un petit ralentissement, mais on voit que les entreprises aujourd'hui voient toujours leur modèle d'affaires à risque. Fait que c'est pour ça qu'on investit encore massivement. Et le retour sur investissement de ces capitaux-là est encore positif. Fait qu'on suit cette tendance-là. Donc, C'est-à-dire qu'on est quand même un peu plus avancé. Au départ, on investait beaucoup les sommes d'argent qu'on avait, les entreprises qui impriment de l'argent, en fait, qui imprimaient de l'argent, on les réinvestissait. Là, on était chercher de la dette, des entreprises qui sont très en moyen, ont des bilans très, très solvables, donc ont été chercher du financement sur le marché. Puis là, récemment, on a commencé à émettre des actions. Donc, on voit différentes stratégies de ces entreprises-là maintenant pour aller pouvoir financer leurs aventures du côté de l'intelligence artificielle, bâtir les centres de données. Fait que ce côté-là, on voit que c'est ça, c'est un peu plus mature. On n'est pas vraiment sur la fin de cycle. On anticipe que ça va continuer encore. Est-ce que dans ce cycle-là, il peut y avoir des petits blips, des petites phases un peu plus, je ne veux pas dire difficiles, mais où est-ce que le pessimisme des investisseurs va être un peu plus grand? C'est possible. Mais en ce moment, il n'y a rien qui nous indique que la demande du côté de l'intelligence artificielle est en train de freiner. Au contraire, elle semble encore s'accélérer. Tant que la demande va se maintenir, puis on suit plusieurs indicateurs de ce côté-là, ben on pourrait continuer à voir ces entreprises-là à bâtir. Là, la question demeure jusqu'à quel point? C'est une question qui demeure ouverte.
Puis on va conclure avec ça parce qu'on ne peut juste pas passer à côté, là. SpaceX est rentré en bourse vendredi dernier. Parle-nous un peu de SpaceX, l'évaluation de l'entreprise. C'est quoi tes opinions sur cette entreprise-là?
Oui, mais tu sais, je vais essayer de donner un petit peu de perspective à froid, là. Donc, dans mon rôle, on ne conseille jamais sur des titres précis, là, mais cette entrée-là, c'était quand même assez. Tout le monde suivait ça, en fait. C'était celle qui était le plus attendue, la plus grosse d'un point de vue historique. Tu sais, juste avant de rentrer, on valorisait la compagnie à environ 1 750 milliards de dollars. Donc, habituellement, là, on se rappellera des entreprises comme Apple et autres. Dans le temps, on rentrait sur le marché à 10 milliards. Donc là, vous voyez où est-ce qu'on est. Cette valorisation-là, c'est une entreprise qui rentrait sur le marché à 100 fois les ventes. Habituellement, quand on voit une entreprise qui se négocie à 100 fois les ventes futures, ça, c'est cher. Mais là, aujourd'hui, on voit des gens qui sont très excités encore même à ce prix-là. C'est juste pour vous démontrer l'engouement. On parlait de fondamentaux, profitabilité, c'est important pour les marchés. Du côté de SpaceX, il n'y en a pas. Okay? Fait que ce que je suis en train de vous dire, c'est que la valorisation, les gens sont en train d'escompter le futur aujourd'hui. Le futur qui est encore inconnu, puis c'est difficile de valoriser une entreprise comme ça parce qu'on est en train de parler de révolutionner complètement. On parle de bâtir des centres de données dans l'espace, de construire une base lunaire. Donc, c'est toutes des choses. Puis je vous dirais que Musk, plus qu'un étant un PDG, c'est un bon storyteller. C'est quelqu'un qui raconte une très bonne histoire. Par le passé, il a toujours été comme ça. Puis oui, il a été en mesure de livrer, mais je vais vous rappeler que ça fait 10 ans qu'on est supposé d'avoir des voitures sans volant. Donc, on a tendance à promettre beaucoup de choses souvent. Fait que ça, c'est juste pour vous parler un petit peu du personnage, mais l'entreprise en tant que telle, c'est l'entreprise probablement la plus intéressante. Est-ce qu'on veut l'aimer? Oui. Mais est-ce qu'on peut aimer une entreprise et est-ce qu'elle peut être chère en même temps? La réponse est oui à ces deux questions-là. Donc, d'un point de vue investissement pur et dur, il y avait des risques inévitablement quand on voit une entreprise aussi chère avec peu de fondamentaux. Et là, depuis, là, l'action, elle a continué à grimper sur les marchés. On est à 4 jours, en fait, je pense qu'on entame la 4e journée. On est rendu à plus de 2 500 milliards de dollars. Juste pour vous donner la perspective, Amazon est à 2 700 milliards, une entreprise qui est là depuis longtemps, qui a des fondamentaux très solides. Donc là, on est dans une phase FOMO, Fear of Missing Out. Les investisseurs qui veulent s'arracher les actions, ils veulent embarquer, ils croient à la vision de M. Musk. Est-ce que je remets en doute sa vision? Non, aucunement. Je pense que c'est quelqu'un de très brillant. Ma question à savoir, c'est est-ce qu'on va être capable de monétiser, de rentabiliser tout ce qu'on veut faire et ça va prendre combien de temps? Le jury est encore en délibération là-dessus, mais c'est une entreprise qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, surtout si on a d'autres grosses entrées en bourse cette année avec Anthropic et OpenAI. De notre côté, on va s'en servir pour voir le pouls, le sentiment des investisseurs. Est-ce qu'ils croient encore à la thématique d'intelligence artificielle? Et si jamais c'est des entrées en bourse qui vont peut-être moins bien, ça pourrait dire, bon, ben, on va peut-être vivre un petit cycle un peu plus chaotique là, sur les marchés, mais sinon, somme toute, ça va être fort intéressant à suivre.
Hugo, je dois te poser la question. Quel serait ton message principal pour les investisseurs aujourd'hui, rapidement, si tu peux nous dire?
Oui, ben écoute, tu sais, je te dirais, ces temps-ci, je me fais beaucoup à côté par des membres, des clients ou des professionnels en interne. Puis ils me disent, Hugo, les marchés ont augmenté beaucoup récemment. Puis, tu sais, on sent qu'ils sont craintifs, soucieux. Pourquoi? T'sais, on est soucieux quand les marchés montent, quand les marchés descendent, quand ils font des pirouettes, donc on est toujours soucieux, puis c'est normal. T'sais, les marchés, souvent, il y a une certaine volatilité. C'est pas parce que les marchés ont augmenté beaucoup en peu de temps qu'ils peuvent pas continuer à augmenter. Okay? Puis là, de moi-même, je veux pas baigner dans la complaisance, je veux pas mettre mes lunettes roses, quoi que ce soit. Mais historiquement, okay? Ça c'est factuel, un marché n'atteint jamais un sommet ultime sur des mauvaises nouvelles ou sur un marché qui est craintif. Et en ce moment, on sent que le marché est craintif. Ça peut paraître contre-intuitif, là, mais même quand on a des indices qui cumulent des sommets, on voit que les investisseurs ils ont des craintes par rapport à bon, mais la monétisation, l'intelligence artificielle, la concentration, tout ce que je vous ai dit un petit peu, ça s'est tangé dans le marché. Et là-dessus, ça, c'est bon signe. D'un point de vue contrariant, si jamais on avait la croissance des bénéfices, puis vraiment les valorisations qui étaient très fortes, puis une poussée des stocks encore plus fort, là, on pourrait se dire, OK, là, faut faire attention. Mais je vous dirais que en ce moment, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des risques que le marché peut se replier sur une mauvaise nouvelle, quoi que ce soit? Définitivement. Mais la trame de fond demeure très positive. Fait que ça, nous, là-dessus, ça nous encourage. Donc, on est prudemment optimiste pour la fin de l'année. Et statistiquement parlant, le sommet annuel depuis 1950 est atteint quand? C'est rarement dans la période où est-ce qu'on est, c'est souvent en décembre. Fait que je répète mon message, l'année est encore jeune, il peut se passer encore beaucoup de choses et on peut être surpris encore à la hausse. Fait que demeurer investi, d'être diversifié, être sélectif encore plus. Ça, c'est d'autant plus important aujourd'hui, mais somme toute, de demeurer investi, c'est vraiment la clé. Là.
Absolument, puis surtout discipliné. Puis ça, Martin et moi, on est là pour nos clients pour ça. Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup, Martin. Et merci à vous tous pour avoir écouté. Si vous avez des questions sur la planification financière, sur quoi que ce soit relié à votre dossier ou sur cet appel aujourd'hui, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi sommes toujours là pour vous. À bientôt pour une prochaine épisode de À l'écoute des investisseurs.